Bonjour, cher frère. Cela fait plus de 9 mois que ma femme et moi sommes mariés et nous avons vécu de nombreux sabbats et jours saints ensemble. Ce matin, c'est la première fois que je me suis réveillé et que j'ai proposé de préparer le repas partage et qu'elle m'a rejeté du revers de la main. Je ne ferai plus jamais cette proposition. Cela ne s'est pas produit. Je voudrais commencer aujourd'hui paragraphe une question. Qu'est-ce que la justice? Nous entendons beaucoup parler de la perversion de la justice, nous entendons beaucoup parler de la justice dans l'Église. Si vous deviez écrire ce qu'est la justice, prenez quelques secondes, je vous en laisse le temps. Qu'écririez-vous? Si vous consultez la version en ligne de Merriam-Webster, c'est le maintien ou l'administration de ce qui est juste, en particulier par l'ajustement impartial de revendications conflictuelles. C'est sur cette partie que je veux me concentrer, ou sur l'attribution de récompenses ou de punitions méritées. Vous avez peut-être écrit quelque chose qui s'en rapproche, mais en gros, le méchant n'a que ce qu'il mérite, si vous me permettez l'expression. Les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes, les mauvaises choses arrivent aux mauvaises personnes. Le méchant n'a que ce qu'il mérite. Il y a aussi l'injustice, qui consiste à punir quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Certaines des plus grandes injustices que j'ai lues concernent des personnes qui sont en prison depuis des décennies. Vous avez probablement vu ces histoires dans les journaux. Elles sont déchirantes. Ces personnes ont été emprisonnées pendant des décennies, grâce à l'avènement de la preuve par l'ADN, leur innocence est prouvée. L'État les libère et leur verse peut-être une petite somme d'argent par année d'incarcération. En fin de compte, quelqu'un a perdu toute une vie derrière les barreaux à cause d'une injustice. Ce qu'ils ont fait ne correspond pas à ce qu'ils ont reçu. Nous sommes ici aujourd'hui, frères, pour faire la volonté de Dieu. Nous attendons le royaume de Dieu et nous subissons quelque chose qui peut être douloureux. Le docteur Anne a beaucoup parlé du jeûne dans l'offertoire. Ce n'est pas nécessairement agréable, mais nous réfléchissons à un jour rempli d'une signification énorme pour nous tous, et la justice est au cœur même de ce jour. Passez au chapitre 16 du Lévitique. Un chapitre entier est consacré à ce dont nous parlons aujourd'hui, au jour que nous célébrons. Verset 1. Le Seigneur parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron, lorsqu'ils offrirent des sacrifices devant le Seigneur et moururent. L'Éternel dit à Moïse, parle à Aaron, ton frère, pour qu'il n'entre jamais dans le sanctuaire, devant le voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche. Qu'il ne meure point, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Aaron entrera dans le sanctuaire avec un jeune taureau pour le sacrifice, pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Il revêtira le manteau de lin sacré, il aura sur son corps les culottes de lin, il sera ceint d'une ceinture de lin, ses vêtements sacerdotaux, et il sera coiffé d'une mitre de lin. Ce sont des vêtements sacrés. C'est pourquoi il lavera la chair dans l'eau et les revêtira. Il s'apprête à faire quelque chose de très important pour les enfants d'Israël, et finalement très important pour nous tous. Il prendra dans l'assemblée des enfants d'Israël deux boucs, deux chèvres pour le sacrifice, pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira le taureau du sacrifice pour le péché, qui est pour lui. Et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les deux boucs. Notre sujet ici, les deux boucs, et il les présentera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente de la congrégation. Aaron tire au sort les deux boucs. L'un pour le Seigneur, l'un représentant Jésus-Christ en fin de compte, et les quatre autres, le bouc émissaire. Vraiment le bouc Azazel, un bouc représentant Satan. Nous verrons. Il a dû tirer au sort parce que ces boucs étaient identiques. Ils avaient tous deux l'air de bons boucs. en bonne santé, mais l'un représentait quelque chose qui était le point culminant de tout le mal qui n'a jamais existé, et l'autre était un Christ parfait et innocent. Il devait tirer au sort parce que seul Dieu pouvait déterminer lequel était lequel. Le sort est un appel solennel à Dieu dans une affaire douteuse, quelque chose qui ne peut être discerné avec les yeux. Aaron amènera le bouc sur lequel est tombé le sort du Seigneur, celui qui représente Christ, et il l'offrira en sacrifice pour le péché. C'est le fondement de cette journée. Nous avons besoin de ce sacrifice pour le péché afin d'être en harmonie avec Dieu. Le bouc sur lequel le sort est tombé pour être le bouc émissaire. La traduction n'est pas exacte. Un bouc émissaire est quelqu'un qui est blâmé pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Nous verrons qu'il est blâmé pour quelque chose qu'il a fait. Le bouc sur lequel est tombé le sort pour servir de bouc émissaire sera présenté vivant devant l'Éternel, afin qu'il fasse l'expiation avec lui et qu'il aille au désert pour servir de bouc émissaire. Aaron amènera le taureau du sacrifice pour le péché, qui est pour lui, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera le taureau du sacrifice pour le péché, qui est pour lui, et il prendra un capteur plein de charbons ardents de l'autel devant Dieu et ses mains pleines de parfums odoriférants, battus en petits morceaux, et il les apportera à l'intérieur du voile. Il mettra l'encens sur le feu devant l'Éternel et la nuée de l'encens couvrira le propitiatoire qui est sur le témoignage, afin qu'il ne meure pas. Aaron devait faire des choses spécifiques en tant que souverain sacrificateur, mais nous en revenons encore une fois à ces deux boucs. Il prendra le sang de la balle et en fera l'aspersion avec le doigt sur le propitiatoire, à l'orient, en continuant sur cette ligne. Devant le propitiatoire, il fera cette fois l'aspersion du sang avec le doigt. Nous avons beaucoup entendu parler de cela le... C'était le sabbat? Oui, le jour du sabbat. Il égorgera le bouc du sacrifice pour le péché, qui est pour le peuple, pour vous et moi, mais en définitive pour tous les hommes qui ont vécu ou qui vivront, et il apportera son sang à l'intérieur du voile. Il fera avec ce sang ce qu'il a fait avec le sang du taureau, et il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Ce que nous avons lu dans l'Épître aux Hébreux, tout récemment à la fin de la série, en découle. Il s'agit d'un livre basé sur l'expiation et en voici l'origine. Verset 16, il fera l'expiation pour le lieu saint, à cause de l'impureté des enfants d'Israël. Nous aussi, nous avons besoin d'expiation. Il en sera de même pour le tabernacle de la congrégation qui demeure au milieu d'eux, au milieu de leur impureté. Il n'y aura personne dans le tabernacle de la communauté, quand on entrera pour faire l'expiation dans le lieu saint, jusqu'à ce qu'on en sorte et qu'on ait fait l'expiation pour soi-même, pour sa famille et pour toute la communauté d'Israël. Il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera pour lui l'expiation. Ce n'est que par le sacrifice du Christ que nous pouvons être en harmonie avec Dieu. Il prendra le sang du taureau et le sang du bouc, et il les mettra sur les cornes de l'autel circulaire. Il fera avec son doigt sept fois l'aspersion du sang sur l'autel, et il le purifiera et le sanctifiera de l'impureté des enfants d'Israël. Lorsqu'il aura achevé de réconcilier le lieu saint du tabernacle de la congrégation et l'autel, il amènera le bouc vivant. Nous passons maintenant au bouc représentant Satan. Il apportera le bouc vivant et Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant. Dans un sens, tuer ce bouc innocent représentant Christ était une grande injustice, mais c'était nécessaire. Si cela n'avait pas eu lieu, vous et moi ne serions pas assis ici aujourd'hui. C'est la justice. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités, c'est-à-dire la perversité, le mal moral des enfants d'Israël et de toutes leurs transgressions, c'est-à-dire la révolte, nationale, morale ou religieuse. Dans tous leurs péchés, leurs offenses, parfois le péché habituel et sa sanction, plus encore le péché habituel pour ce qui nous concerne ici. Il les mettra sur la tête du bouc et le renverra dans le désert par la main d'un homme valide. Tous les péchés ont été placés sur la tête de ce bouc représentant Satan, le diable, car c'est lui qui est en fin de compte responsable de tous les péchés. Nous verrons. Nous y jouons un rôle, mais c'est lui qui en est à l'origine. Passons au verset 29, alors que nous terminons la 16e édition du Lévitique. Au verset 29, il est dit, « Ce sera pour vous une statue perpétuelle. » Le septième mois, le dixième jour du mois, ce jour, nous le gardons ici aujourd'hui, mes frères. Vous affligerez vos âmes, l'autre grand élément de ceci. N'effectuez aucun travail, qu'il s'agisse d'un indigène ou d'un étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce jour-là, c'est un jour extrêmement solennel. Car ce jour-là, le prêtre fera pour vous l'expiation, afin de vous purifier et de vous purifier de tous vos péchés devant le Seigneur. Quelle journée extraordinaire à vivre avec le royaume qui se profile à l'horizon. Quel étonnant témoignage de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Nettoyez tous vos péchés devant le Seigneur. Ce sera pour vous un sabbat de repos, et vous affligerez vos âmes paragraphe une statue perpétuelle. Verset 34. Ce sera pour vous une loi perpétuelle, afin que vous fassiez chaque année l'expiation de tous les péchés des enfants d'Israël. Et il fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. La justice arrive, mes frères. Elle arrive bientôt. Maintenant que nous avons lu ce chapitre, nous pouvons l'apprécier. Plus encore que la justice, c'est le péché qui est au cœur de cette journée. Le péché est au cœur même du jour des expiations. Le péché a rendu la mort de ce premier bouc nécessaire pour que nous puissions vivre. Nous commettons des erreurs. Nous allons régulièrement voir le Père et il applique ce sang et nous pouvons avancer dans notre marche chrétienne, mais le péché a rendu la mort de ce premier bouc nécessaire. Ce deuxième bouc était en fin de compte responsable de tous les péchés. Tous les péchés ont été mis sur sa tête. C'est ce que Dieu a ordonné au prêtre de faire. Il lui a fait porter l'accusation de tous ses péchés. Le blâmer pour le péché. Le péché est au cœur de cette journée. Le péché doit être éliminé pour que nous soyons unis, en fin de compte, que tous les êtres humains soient unis à Dieu. Or, il y a certaines punitions explicites qui viennent à Satan pour ce qu'il a fait. Elles se déroulent en différentes phases et à différents moments. Ce n'est pas nécessairement mon but d'expliquer quand elles se produisent, mais examinons certaines de ces punitions. Notre objectif aujourd'hui est de haïr le péché à la fin de ce message plus que lorsque j'ai commencé. Si vous détestez le péché en quittant les services aujourd'hui plus que vous ne l'avez détesté en arrivant, j'ai fait mon travail. C'est un objectif très singulier et très simple. Apprenons à haïr le péché en ce jour d'expiation. Détestons le péché plus passionnément que nous ne le faisons déjà. Matthieu 8. Certains châtiments s'abattent sur cet être pour tout ce qu'il a fait. Matthieu 8 et verset 28. Christ vient de calmer une tempête. Lorsqu'il fut arrivé à l'autre bout du pays, verset 28, il vint au-devant de lui, de la part des Gadaréniens, deux démoniaques qui sortaient des sépulcres, et qui étaient saisis d'une grande frayeur, de sorte que personne ne passait par ce chemin-là. Et voici qu'il s'écriait, « Qu'avons-nous à faire avec toi, Jésus, Fils de Dieu ? Êtes-vous venu ici pour nous tourmenter avant l'heure ?» Tourmenter signifie torturer. Il peut être traduit par « douleur », « labeur », « tourment », « vexation ». Il savait qu'il y aurait un jour des comptes à rendre pour eux et que la justice leur serait rendue pour ce qu'ils avaient fait. Ils ont demandé au Christ, es-tu ici 2000 ans plus tôt pour nous tourmenter avant le temps? Dans Ésaïe 14, on trouve une litanie de châtiments infligés à cet être et à ceux qu'il a utilisés dans sa persécution de l'humanité. Ésaïe 14. Souvent, nous avons des fenêtres sur Satan à travers les hommes qu'il possède, qu'il s'agisse de la septième ou de la huitième tête. Vous voyez cet homme de péché rempli de tous les pouvoirs, de tous les signes et de tous les prodiges mensongers. Nous savons qu'il s'agit en fin de compte du diable, mais ici, dans Ésaïe 14, nous voyons le roi de Babylone. Le jour où l'Éternel vous donnera du repos, vous vous affranchirez de votre tristesse, de votre crainte et de la dure servitude dans laquelle vous avez été réduit. Vous ferez valoir ce proverbe contre le roi de Babylone après la captivité. Il s'agit de Nabuchodonosor, à la fin de l'année, contre le roi de Babylone. Comment l'oppresseur a-t-il cessé? La ville d'or a disparu. Le Seigneur a brisé le bâton des méchants et le sceptre des dominateurs. Celui qui, dans sa colère, frappait le peuple d'un coup continu, celui qui gouvernait les nations avec fureur, est persécuté, et personne ne l'arrête. La terre entière est en repos et se calme. Ils se mettent à chanter. Oui, les sapins se réjouissent de votre venue, et les cèdres du Liban disent, « Depuis que vous êtes couchés, aucun homme ne vient sur nous. L'enfer d'en bas s'émeut pour vous rencontrer à votre arrivée. Il réveille pour vous les morts, tous les chefs de la terre. Ils se lèvent de leur trône, tous les rois des nations, et ils prennent la parole pour vous dire, « Êtes-vous devenus aussi faibles que nous? Êtes-vous devenus comme nous? Il semble que ce soit un homme qui soit décrit, mais il va se transformer en Satan. Votre faste est descendu au tombeau dans le bruit de vos coupes. Le ver est répandu sous toi et les vers te couvrent. Comment es-tu tombé du ciel? Ô, Lucifer, fils de l'aurore, comment es-tu tombé à terre? Qui a affaibli les nations? Il a affaibli les nations par les péchés dont il était l'instigateur. Ce qui a affaibli les nations. Car tu as dit en ton cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des cieux. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je m'élèverai au-dessus des hauteurs des nuages. » Le genre n'est pas là. Je serai le plus haut. Voilà un être qui voulait faire tomber Dieu de son trône et régner. Sommes-nous reconnaissants qu'il ne contrôle pas tout? Mais on vous fera descendre dans la géhenne, sur les bords de la fosse, et ceux qui vous verront ne regarderont que de très près. Ceux qui te verront te regarderont de près et t'examineront en disant, « Est-ce là l'homme qui a fait trembler la terre ?» qui a ébranlé des royaumes? Les gens finiront par voir le diable pour ce qu'il est. Pour l'instant, ils sont complètement trompés. Nous sommes les rares sur terre à comprendre ce qui se passe. Pour l'instant, ils ne peuvent pas faire la différence entre le bouc Azazel et le bouc offert en sacrifice pour le péché, mais il arrivera un moment où le concert sera levé, si je puis m'exprimer ainsi. Ils verront le diable pour ce qu'il est. Apocalypse 20, deux autres châtiments ici. Silence. Je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main, et qui saisit le dragon, le serpent ancien, le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Pendant le millénaire, un autre châtiment vient à juste titre sur ce bouc. Il le jeta dans l'abîme, l'y enferma, et mit sur lui un sceau, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après quoi il faudra le délier pour un peu de temps. Puis, au verset 7, nous commençons à lire le second châtiment. Encore une fois, nous n'avons pas de détails sur le moment où tout cela se produit, mais le verset 7, quand les 1000 ans seront écoulés, est assez clair. Satan sera délié de sa prison, et il sortira pour séduire les nations. Il reprendra le travail qu'il avait laissé. Reprendre là où il s'est arrêté. Il ne fait qu'un tour. C'est tout ce qu'il fait. Il sort pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour le combat, et il y en a autant que le sable de la mer. Ils montèrent sur la largeur de la terre, et ils entourèrent le camp des saints, et la ville bien-aimée. Et un feu descendit du ciel, d'auprès de Dieu, et les dévora. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où furent jetés auparavant la bête et le faux prophète, et où ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. C'est sa maison ultime, si je peux m'exprimer ainsi, et il n'en sortira que périodiquement, lorsque Dieu aura besoin de lui. Nous nous souvenons que plus tôt dans la série, nous avons appris que Dieu a fait une alliance avec lui. Il sortira périodiquement pour tester les gens, tout comme il sort maintenant périodiquement pour tester les gens de manière plus importante dans le plan de Dieu pour le plus grand dessein de Dieu, mais en fin de compte, il ira dans l'étang de feu. Un endroit où vous et moi pouvons finir. Il veut nous prendre, nous entraîner avec lui dans l'étang de feu. En fin de compte, c'est Dieu qui détermine qui va dans l'étang de feu, mais si Satan peut nous convaincre de rejeter Dieu, il sait qu'il a la capacité de nous entraîner dans ce même feu, sauf que nous sommes des êtres physiques. Nous serons brûlés et blancs. Le jeu est terminé pour nous. Il n'est plus possible d'entrer dans la famille de Dieu s'il peut nous entraîner dans le même destin que celui qu'il sait lui être réservé. Le but de Satan, et nous allons voir comment, c'est de nous tuer. C'est simple. Tous ces dispositifs, ces tactiques, ces astuces et ces trahisons, tout ce qu'il fait n'a qu'un seul but, nous tuer, vous et moi. C'est aussi simple que cela. Il peut utiliser des tactiques sophistiquées pour nous attaquer, mais l'objectif fondamental est toujours le même. Il ne tient qu'à nous, il ne tient qu'à nous d'éviter ce destin. Nous avons toutes les possibilités et tous les outils pour éviter ce destin, y compris le sang de ce premier bouc. Il n'y a pas de quoi se décourager, mais nous devons voir cet être pour ce qu'il est. Son seul but est de nous tuer, et il a un réel pouvoir. Reportez-vous au chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux. Il a un réel pouvoir. Christ nous dit, « Craignez celui qui peut vous tuer dans le feu de l'enfer, en parlant du Père. » En fin de compte, nous devons craindre Dieu. C'est lui qui peut nous envoyer dans les temps de feu. C'est devant lui que nous craignons et tremblons. Nous ne craignons pas Satan dans ce sens, mais Satan a un pouvoir très réel. Je ne parle pas seulement du Dieu de ce monde, du prince de la puissance de l'air, de quelqu'un qui peut interrompre nos vies, de quelqu'un qui peut affaiblir les nations. C'est un vrai pouvoir, mais je parle d'un pouvoir réel plus spécifique, ici dans le chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux, au verset 9, nous allons commencer. Nous voyons Jésus, qui a été abaissé au-dessous des anges pour souffrir la mort, couronné de gloire et d'honneur pour avoir, par la grâce de Dieu, goûter la mort pour tout homme. Car il lui convenait, lui pour qui tout existe et par qui tout existe, de rendre parfait par les souffrances le capitaine de leur salut, en amenant beaucoup de fils à la gloire. S'il n'était pas passé par ces souffrances, il ne se serait pas qualifié pour être cet enfant sacrifié, ce bouc sacrifié. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés ne font qu'un. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Je proclamerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'Église. Encore une fois, je me confie en lui. Et encore, Voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Par cet appel extraordinaire qu'il a reçu et l'épreuve qu'il a subie pour nous. Verset 14. De même donc que les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi a participé. Christ est venu en chair et en os, afin de détruire par la mort. C'est la clé, celui qui avait le pouvoir de la mort. C'est le diable. Le diable a quelque chose qui s'appelle le pouvoir de la mort. C'est clair. Christ est venu pour détruire celui qui avait le pouvoir de la mort. C'est le diable. Or, quel est le pouvoir de la mort? Nous avons vu que ceux qui échouent finissent dans l'étang de feu. Leur vie a pris fin. Il s'agit de l'étang de feu et nous pouvons penser qu'il s'agit d'une incinération presque immédiate et que c'est fini. C'est le pouvoir de la mort. Imaginez des flammes et puis c'est fini, c'est l'obscurité. Les morts ne savent plus rien, mais c'est bien pire que cela. Le pouvoir de la mort signifie qu'il n'y a pas de vie éternelle. Pas de temps avec la famille pour toujours. Pas de ville, pas de récompense, pas de couronne, pas d'ailes, pas d'animaux ressuscités, pas d'arbre de vie, pas de pierre blanche, pas de personnage géant à la forme magnifique, pas de nouveau nom. Qu'en est-il de toutes les choses dont nous n'avons même pas idée et qui nous attendent? Aucun plaisir n'est éternel. Aucune plénitude de joie. S'il peut nous convaincre, s'il peut nous persuader et utiliser son pouvoir de mort. Pas de satisfaction lorsque nous avons la ressemblance de Dieu. Pas de repos. Ce n'est qu'un moment de douleur, mais c'est tout ce qui nous manque. Il ne veut pas que nous ayons ces choses parce qu'il ne peut pas les avoir. Il a fait des choix terribles et il veut nous entraîner dans sa chute, mais nous ne sommes pas ces gens-là. Nous ne sommes pas ces proies. L'origine de ce pouvoir de mort est également très spécifique. Reportez-vous au chapitre 6 de l'Épître aux Romains. L'origine de ce pouvoir ne peut pas être mal comprise. Romains 6 verset 12. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, pour que vous lui obéissiez dans sa convoitise. Ne livrez pas non plus vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais livrez-vous à Dieu comme des vivants d'entre les morts, et vos membres comme des instruments de justice pour Dieu. Car le péché ne dominera pas sur vous. Car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Que se passe-t-il alors? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, parce que nous avons cette première offrande de bouc sous la grâce? Dieu nous en préserve. Ne savez-vous pas que celui à qui vous vous soumettez, serviteur, doit obéir à ses serviteurs? Vous êtes à qui vous obéissez, soit par le péché, soit par la mort. Si le diable a le pouvoir de la mort et que le péché mène à la mort, il est clair que le péché est l'outil qu'il utilise pour exercer ce pouvoir. Le péché mène à la mort, nous le verrons plus clairement dans une seconde. Ou de l'obéissance à la justice. Dieu soit remercié de ce que, alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi du fond du cœur à la doctrine qui vous a été transmise. Libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Oui, il nous arrive de déraper, mais dans l'ensemble, nous sommes des serviteurs de la justice en tant que peuple de Dieu. Je parle à la manière des hommes, à cause de l'infirmité de votre chair. Car, de même que vous avez livré vos membres à l'impureté, et l'iniquité à l'iniquité, de même, maintenant, livrez vos membres à la justice, à la sainteté. De même maintenant, livrez les membres de vos serviteurs à la justice, à la sainteté, car lorsque vous étiez les serviteurs du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit avez-vous eu dans les choses dont vous avez maintenant honte? À quoi cela a-t-il servi? Car la fin de ces choses, c'est la mort. Le péché entraîne la mort. C'est le pouvoir du diable. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus des serviteurs de Dieu, vous avez votre fruit en vue de la sainteté et, en fin de compte, de la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ésaïe 59 nous est très familier. Tournons-nous vers lui. Il y a une chose qui peut nous séparer de Dieu, et le diable le sait, et il l'utilise à son avantage pour exercer son pouvoir de mort. Ésaïe 59. Nous avons échappé à ses griffes pour la plupart. Nous devons encore endurer jusqu'à la fin, mais nous avons échappé à ses griffes. Ce n'est pas le cas du monde. Ésaïe 59. Voici, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas trop lourde pour entendre. Mais vos iniquités ont creusé un fossé entre vous et votre Dieu, et vos péchés vous ont caché sa face, de sorte qu'il ne vous a pas écouté. Le monde est dans un état d'impénitence. Le monde est coupé de Dieu parce que ses péchés ne lui permettent pas d'avoir une relation avec lui. Ses péchés ont été excisés. Ils ont été retirés de nos vies par le sacrifice du Christ, et ils le sont toujours. Le monde est actuellement coupé du monde, quelle que soit la date à laquelle cela s'appliquera finalement. Le péché, mes frères, est la clé du pouvoir de Satan. En soi, cela devrait nous faire le détester. Nous ne pouvons pas considérer le péché comme un inconvénient ou une nuisance, ou comme quelque chose dont nous nous occupons ou « Ah, oui, j'ai travaillé là-dessus, mais il continue à surgir. » Oui, il y a des batailles que nous devons parfois mener de manière répétée, mais nous ne pouvons jamais avoir une vision désinvolte du péché. C'est le pouvoir de mort que le diable exerce sur nous. Il est au cœur des trois S dont nous parlons, Satan, la société et le moi. Nous le considérons souvent comme l'un des S, Satan, mais aussi la société. Il est le dieu de ce monde. Il a établi les modèles de vie des 6000 dernières années dans ce monde. Il est au cœur même de la société. Et que dire du moi? Nous savons que la nature humaine est la nature de Satan. Entre ces trois sciements, il est très efficace pour amener les gens à pécher. Il a inventé le péché. Ézéchiel 28. C'est sa spécialité, le péché. Plus nous pouvons associer cet être au péché, plus nous détesterons le péché. Le diable a inventé le péché. La raison pour laquelle notre récompense est si élevée est que nous devons combattre ces trois entités, Satan, la société et nous-mêmes pendant une longue période. Ce n'est pas comme pendant le millénaire où Satan est lié, comme nous l'avons lu plus tôt. Ce sera beaucoup plus facile pour les gens pendant le millénaire. Je dirais même que leur récompense sera moindre. Vous et moi devons nous battre constamment, jour après jour, pendant toute notre vie. C'est en partie pour cela que notre vocation est si élevée. Nous vainquons comme Christ l'a fait. Ézéchiel 28, verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, et dis-lui, ainsi parle l'Éternel. Vous scellez la somme pleine de sagesse et parfaite en beauté. Il ne s'agit pas d'un être humain. Vous avez été en Éden, le jardin de Dieu. Toutes les pierres précieuses vous couvraient. Le sardoine, la topaze, le diamant, le béryl, l'onyx, le jaspe, le saphir, l'émeraude, l'escarboucle, l'or, l'ouvrage de tes tabourets et de tes tuyaux, tout cela a été préparé en toi au jour où tu as été créé. Créé avec des instruments de musique spéciaux. Vous êtes le chérubin loin qui couvre et je vous ai établi ainsi. Je vous ai choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Vous êtes sur la montagne sainte de Dieu. Vous avez marché de long en large au milieu des pierres de feu. Accès au trône de Dieu. Vous étiez parfait dans vos voies depuis le jour où vous avez été créé, le summum de la création de Dieu. Il y a des milliards d'années que cet être a été créé, et voici la clé, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en vous. Avant cela, l'iniquité n'existait pas. Le Père en Christ avait vécu pour l'éternité, dans une paix parfaite, une harmonie parfaite, un amour parfait, sans aucune iniquité. À un moment donné, ils ont décidé de créer des anges, pas d'iniquité à ce moment-là non plus. C'est merveilleux jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée dans cet être singulier. Il ne l'a appris de personne. Personne n'a appris au diable à pécher. C'est simplement apparu en lui. Cela faisait en quelque sorte partie de sa nature. Il l'a laissé faire. Il a inventé le péché. Il sait comment fonctionne le péché. Il sait comment l'utiliser contre nous dans sa poursuite pour nous entraîner dans les temps de feu. Jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi par la multitude de tes marchandises, ils ont rempli le milieu de toi de violence et tu as péché. C'est pourquoi je te rejetterai de la montagne de Dieu, comme une profanation, et je te détruirai, ou je bannirai du milieu des pierres de feu le chérubin qui te couvre. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Voilà la réponse. Satan s'est dit, « Oh là là, je suis vraiment le summum de la création de Dieu. Je dois être quelqu'un. Je mérite d'être Dieu. » Jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en lui. Il n'y a jamais eu de péché avant cela. Il n'y a jamais eu de problème dans l'univers entier avant ce moment du temps décrit ici au verset 15. Vous avez corrompu votre sagesse par votre éclat. Je vous jetterai par terre. Je te pèserai devant les rois, pour qu'ils te voient. Cela ressemble beaucoup à Ésaïe 14. Jean 8. Jean chapitre 8. Nous devons détester cet être. Et quel meilleur jour pour méditer sur ce sujet que l'expiation? Jean 8. Une confrontation intense avec les Juifs, verset 37. Jean 8, 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole n'a pas de place en vous. Il a probablement dit aux pharisiens, « Je ne me souviens pas. Je dis ce que j'ai vu avec mon père, et vous faites ce que vous avez vu avec votre père. » Votre père, c'est-à-dire le diable. Ils lui répondirent, Abraham est notre père. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Ce n'est pas ce qu'a fait Abraham. Cela les a encore plus énervés. Abraham n'a pas cherché à me tuer. Ils ont donc compris l'allusion. Oh, vous dites que vous étiez avant Abraham? Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent alors, nous ne sommes pas nés de l'impudicité. Nous avons un seul père, Dieu. Se moquant de lui à cause de la manière dont il a été conçu. Nous n'avons qu'un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car je suis sorti et venu de Dieu. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon discours? Parce que vous n'entendez pas ma parole. » Vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis parce que... Verset 44 ici. Vous êtes de votre père le diable et vous ferez les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il n'a pas demeuré dans la vérité. L'iniquité a été trouvée en lui, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il est passé de la perfection à un point où, il n'y a plus de vérité. Il est l'être le plus fou et le plus maléfique de l'univers. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il parle, il dit un mensonge. Tout ce qu'il dit est un mensonge. Il parle de lui-même, car il est menteur et en est le père. Soit il ment, soit il déforme la vérité, soit il s'appuie sur la vérité pour mentir. Jean joue dans 1 Jean. 1 Jean 3. 1 Jean 3 et verset 8. Celui qui commet le péché est du diable. Commet habituellement le péché, est du diable, car le diable pêche dès le commencement. C'est pourquoi le Fils de Dieu a été manifesté, afin de détruire les œuvres du diable. Il s'agit d'un passage sur l'expiation. Les deux agneaux sont réunis en un seul. Le diable a péché depuis le début. Il est responsable des péchés des autres, et le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Pour détruire la mainmise qu'il avait sur nous par le péché. Pour finalement détruire la mainmise qu'il a sur le monde en utilisant le péché à son avantage, en utilisant le péché comme son outil ultime et singulier. Regardez ce qu'il a fait à nos premiers ancêtres. Chaque interaction entre Satan et les gens ne devrait pas être perçue comme « oh ». Il leur donnait du fil à retordre ou il essayait de les tromper ou il essayait de leur infliger de la douleur. Non, il essayait de les tuer. Genèse, chapitre 2. Genèse 2, verset 15. Encore une fois, notre objectif est simple. Détester le péché plus à la fin qu'au début. 2, 16. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Car le salaire du péché, c'est la mort, et ce serait me désobéir. » Donc, immédiatement, Satan a vu, « C'est mon opportunité. » Dieu leur a dit de ne pas faire quelque chose. Il leur a dit, « Si vous me désobéissez, vous mourrez. C'est ma chance. C'est mon moment en or. » Verset 18, le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un compagnon, et ainsi de suite. » Chapitre 3, verset 1. Le serpent était plus subtil que toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait créées. Il a dit à la femme qu'il avait vu sa chance, et il l'a saisie immédiatement, juste après avoir appris qu'il mourrait s'il désobéissait à Dieu. Il dit à la femme, « Oui, comme Dieu l'a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » La femme dit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. » Mais le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas. » Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur de mourir. Le serpent dit à la femme, « Tu ne mourras pas. Vous ne mourrez pas. N'écoutez pas Dieu. Écoutez-moi. » Il savait qu'il avait le pouvoir de la mort. Il savait que s'il pouvait convaincre Ève de péché, de désobéir à Dieu. Il savait que s'il pouvait convaincre Ève de désobéir à Dieu, de péché, il l'aurait. Dieu l'a dit au chapitre 2, « Si vous faites cela, vous mourrez. » Le diable voulait tuer nos premiers parents. Regardons les choses en face. Disons-le clairement. Le diable voulait tuer nos premiers parents en utilisant le péché. Car Dieu sait que le jour où vous en mangerez. Verset 5. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux et... Il a usé de tromperie et de ruse, il a fait appel à l'orgueil de la vie, à la convoitise de la chair et à la logique, et à toutes ces tactiques qu'il utilise pour entrer dans nos têtes, mais en fin de compte, il voulait juste qu'il pêche d'une manière ou d'une autre, et c'était un « je t'ai eu ». Dieu l'a alors expulsé du jardin et nous savons ce qui s'est passé par la suite. Mais nous sommes totalement maîtres de la situation. Je tiens à le souligner encore et encore. Nous sommes totalement maîtres de la situation. Il n'y a pas lieu de désespérer. Nous avons le libre arbitre. Nous choisissons. Je veux dire, regardez ce qu'il a dit à Caïn juste un chapitre plus tard. Genèse 4, 7. Il a dit à Caïn, « Si tu fais bien, ton offrande ne sera-t-elle pas acceptée ? Et si tu ne fais pas bien ?» Genèse 4, 7. Le péché est à la porte, et c'est à toi que reviendra son désir, et c'est toi qui domineras sur lui. Il y a cette force à l'œuvre appelée péché, dont le levier est le diable. Mais tu domineras sur elle, a dit Dieu à Caïn. Et il nous dit la même chose. Nous avons les outils nécessaires pour le dominer. Nous exerçons l'un des outils les plus puissants qui existent aujourd'hui. Le jeûne, le fait de se rapprocher de Dieu, pour revenir à l'offertoire. Cela nous remplit de puissance. Nous devons bien comprendre que la seule chose qui peut mettre fin à notre vie est le péché, et qu'il n'a qu'une seule source. Le diable voulait tuer David. Passez à la première Chronique 21. Nous l'avons examiné l'autre jour. Regardons-le sous un angle un peu différent. Dans première Chronique 21, nous avons vu à quel point le Dieu que nous servons est massif. Dans ce cas, il s'agissait de l'ange de l'Éternel. Nous avons vu à quel point il était massif, avec son épée étendue sur Jérusalem. Regardons ce passage d'un point de vue un peu différent. Première Chronique 21, 1. Satan se leva. Le péché est en notre pouvoir. Satan s'éleva contre Israël, et il provoqua David pour qu'il dénombre Israël. Ce qui signifie piquer, stimuler, séduire. Satan a poussé David à dénombrer Israël, à s'appuyer sur des hommes, des militaires, plutôt que sur Dieu lui-même. Il l'a provoqué. Mais Satan ne l'a pas poussé à pécher. David a finalement fait un choix. Regardez le verset 8. David dit à Dieu. Après avoir réalisé ce qui s'était passé, David dit à Dieu, « J'ai commis un grand péché, car j'ai fait cette chose. Parce que j'ai fait cette chose. Maintenant, je te prie, fais cesser l'iniquité de ton serviteur, car j'ai fait une grande folie. » Satan n'a aucun pouvoir sur nous pour nous faire pécher. Il peut nous convaincre de pécher, mais cela dépend de nous. Il n'exerce pas ce pouvoir sur nous de manière inconditionnelle, par n'importe quel moyen. Le diable voulait tuer Job. Regardez le premier chapitre de Job. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas simplement de dire « Ah, je t'ai piégé ou je veux rendre ta vie misérable ». Non, il veut nous tuer. Job 1. Nous pensons à ces horribles furoncles et à toutes les personnes de la vie de Job qui ont été tuées et enlevées, et à toute sa prospérité qui lui a été arrachée. Et il peut être facile de penser, oh là là, devenir la proie du diable, quelle chose terrible. Quelle chose horrible. Personne ne veut endurer les afflictions de Job, mais Satan n'était pas intéressé par tout cela. Ce n'était que des outils pour amener Job à pécher. Nous verrons bien. Car ensuite, si Job persistait dans cette voie, il finirait dans l'étang de feu. Il y avait un homme au pays d'Uz, verset 1, dont le nom était Job. Cet homme était parfait et droit, il craignait Dieu et s'éloignait du mal. Il a détesté le mal. Il détestait le péché. Job détestait le péché, alors Satan savait qu'il devait sortir l'artillerie lourde dans sa vie. Il leur naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait aussi 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 bœufs, 500 ânes, et une très nombreuse famille. Cet homme était donc le plus grand de tous les hommes de l'Orient. Une richesse inégalée dans sa région. et ses fils allaient et festoyaient dans leur maison, ils célébraient des anniversaires. Et Job était troublé. Et il en fut ainsi. Verset 5. Lorsque les jours de leur fête furent passés, Job envoya les sanctifier, se leva de bon matin et offrit des holocaustes, très préoccupé par la conduite de ceux qui l'entouraient, ses enfants. Verset 6. Or il y eut un jour où les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Nous avons lu plus haut qu'il avait accès au trône de Dieu. Satan est venu parmi eux. Le Seigneur dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Satan répondit, « D'un va-et-vient sur la terre, et d'une marche sur la terre. » Que faisait-il ? Se promenait-il ? Non, il rôdait. Il faisait ce qu'il fait toujours. Il cherchait une vie chrétienne à détruire. Il allait et venait sur la terre, et il la parcourait de long en large. Le Seigneur dit à Satan, « As-tu considéré mon serviteur Job, qu'il n'y a personne comme lui sur la terre ? Un superlatif, un homme parfait et droit, qui craint Dieu et le mal. » C'est la clé. Il détestait le mal. Il détestait le péché. Nous le soulignerons plus tard. Il détestait le mal, alors Satan savait qu'il lui faudrait quelque chose de plus. Satan répondit à l'Éternel, « Job craint-il Dieu pour rien ? N'avez-vous pas fait une autour de lui, autour de sa maison et autour de tout ce qu'il possède de tous côtés, afin de bénir le travail de ses mains et d'accroître ses biens dans le pays ?» Le diable savait que dans cet état où Job haïssait le mal et faisait ce qui était juste, il n'avait aucun contrôle sur lui dans sa vie. Sa vie était merveilleuse et bonne parce que Job vivait une vie très propre, et il était béni pour cela. Le diable a donc lancé un appel personnel à Dieu. Laissez-moi essayer de ruiner la vie de cet homme. Pourquoi ? Le voici. Alors Satan répondit au Seigneur et dit, Job craint-il Dieu parce qu'il ne... Je répète pour que nous comprenions bien. N'avez-vous pas fait une autour de lui, autour de sa maison et autour de tout ce qu'il a fait de tous côtés? Vous avez béni le travail de ses mains et ses biens se sont accrus dans le pays. Mais avancez votre main et touchez à tout ce qu'il possède. Pourquoi? Pour rendre sa vie misérable? Non. Et il vous maudira en face. Parce que Satan savait que s'il pouvait amener Job à aller aussi loin et à rester dans une attitude aigrie contre Dieu, à développer une attitude aigrie contre Dieu, il pourrait le détruire. Mais Dieu savait que Job pouvait le supporter. Le Seigneur dit à Satan, « Voici, tout ce qu'il a est en ton pouvoir. Seulement, n'avance pas ta main sur lui. Ne le tue pas. » Satan sortit du. En fin de compte, oui. Quoi qu'il en soit, nous comprenons la série de punitions qui en a découlé. Alors Satan sortit de la présence du Seigneur pour tenter de tuer Job, si je peux m'exprimer crûment. Nous pécherons, mes frères, et j'espère de moins en moins. Mais Satan veut que nous nous complaisions dans le péché. Il veut que nous soyons habitués au péché. Car s'il y parvient, il peut nous amener à détourner la boussole de notre vie de Dieu et à la rapprocher de lui, et alors nous serons brûlés dans les temps de feu. Christ était le but ultime du diable, chapitre 4 de Matthieu. Le diable voulait tuer Christ, non seulement pour mettre fin à sa vie, mais aussi à cause de tout ce que cela signifiait pour nous. Tout cela était illustré par ce premier bouc pour nous. Christ était le prix ultime du diable. Il voulait le tuer. Matthieu 4. Alors Jésus fut enlevé par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits. Une autre preuve que le jeûne lie Satan, comme l'Église l'a compris depuis des décennies. Lorsqu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut ensuite faim. Après s'être préparé, Le tentateur s'approcha de lui et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Oh, c'est une demande apparemment insignifiante. Oh, il suffit de faire de ces pierres des pains. Vous aurez à manger, et je sais que vous avez ce pouvoir. C'est facile. Il n'y a pas de problème. Mais il répondit, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Christ a compris que Satan essayait de l'amener à pécher, ce qui aurait fait dérailler tout le plan de Dieu pour lui et pour nous tous. Le diable l'emmena dans la ville sainte, le plaça sur un sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. » Car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre la pierre. » Jésus lui dit, « Il est écrit. » Là encore, il cite la loi, car nous savons que le péché est la transgression de la loi. Il dit, « Je ne peux pas violer la loi de Dieu. » Il est encore écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Satan ne pouvait pas le tuer de cette façon. Et le diable l'emmène sur une montagne très élevée. C'était l'ultime combat. S'il avait réussi ici, tout aurait été fini pour tout le monde. Il n'aurait pas eu besoin de tester les personnes suivantes, de les amener à commettre le péché. Nous n'aurions pas eu de sauveur. Nous aurions péché sans pouvoir avancer. Le diable l'emmène sur une montagne très élevée et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il devient désespéré à ce stade. Je dois vraiment l'amener à pécher maintenant. Il pense donc qu'il peut amener Christ à se prosterner et à l'adorer. C'est absurde. C'est un être fou. Tout ce qu'il dit est un mensonge, comme nous l'avons lu plus haut. Mais son but était simplement de tuer Christ. C'est ainsi qu'il est le Dieu de ce monde. Il est le père des enfants de la désobéissance, lit-on dans les Éphésiens. Lorsque les gens sont désobéissants par habitude, ils sont en fin de compte sous son contrôle. Ils ne trouvent pas particulièrement utile de tester directement ces personnes. Leur mort est déjà programmée. C'est nous, mes frères. C'est sur ceux qui ont tout en jeu qu'ils se concentrent le plus intensément. Mais heureusement, nous sommes dans l'Église de Dieu. Nous avons les outils nécessaires. La compréhension, les outils pour le combattre. La compréhension, les outils pour vaincre comme Christ l'a fait. 1 Pierre 5. Nous sommes en pleine possession de nos moyens. 1 Pierre 5. J'en ai entendu parler dans l'offertoire. Humiliez-vous. Nous nous humilions, verset 6, d'une manière unique aujourd'hui. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Nous savons que l'exaltation est très proche. Jetez sur lui tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, car votre adversaire, le diable, marche comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Pas qui il dévorera. Il n'a pas le choix. C'est nous qui avons le choix. Nous avons le choix de le laisser nous dévorer ou non. Nous avons le choix de rejeter le péché. Chercher qui il dévorera, c'est-à-dire boire, c'est-à-dire engloutir. Il veut nous ruiner, mais ce n'est pas son pouvoir. Son pouvoir est de faire en sorte que le péché nous convainque de nous ruiner. Le péché n'est pas seulement une nuisance ou une épreuve, il est mortellement grave. Nous devons le haïr de tout notre être. L'Ecclésiaste 3, « Nous n'y reviendrons pas », parle d'un temps pour aimer. Nous parlons souvent d'un temps pour aimer en tant que chrétien. C'est un mode de vie. Aimer l'homme, aimer Dieu, sur toute la loi et les prophètes, s'accrocher aux deux plus grands commandements qui sont au cœur de l'amour. Nous parlons d'amour tout au long de l'année, mais il y a aussi, Comme le dit l'Ecclésiaste 3, 8, un temps pour haïr. Il y a un temps pour haïr dans la vie. Et la chose que nous devons détester le plus, c'est le péché. Nous nous préparons à entrer dans une période où les gens apprendront la crainte du Seigneur. Lorsque nous avons célébré les fêtes du passé, nous y sommes allés pour apprendre la crainte du Seigneur et nous réjouir. Un grand nombre de personnes vont maintenant apprendre la crainte de l'Éternel lors de la fête. C'est un moment merveilleux, et ils apprendront aussi à se réjouir. La crainte de l'Éternel comporte de nombreuses facettes. C'est propre, c'est le début de la sagesse. Vous pouvez parcourir les proverbes et les psaumes et voir les différentes facettes de la crainte de l'Éternel. Mais passons au chapitre 8 des proverbes et examinons l'une d'entre elles. Job a évité le mal. Il y a un temps pour haïr. Quelle meilleure chose à haïr que ce que Satan utilise pour nous éloigner du christianisme? Nous devons haïr le péché. Proverbe 8, verset 12. Moi, la sagesse, j'habite avec la prudence, et je trouve la connaissance des inventions pleine d'esprit. La crainte de l'Éternel consiste à haïr le mal, à haïr le péché. Nous devons nous efforcer de haïr le péché, de haïr ce qui a entraîné la mort du premier bouc, de haïr l'influence que le deuxième bouc exerce sur nous, si nous le lui permettons. La crainte du Seigneur consiste à haïr le mal. Pourquoi Christ était-il si puissant? Passez au chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux. Pourquoi Christ était-il si puissant? Pourquoi a-t-il pu ne jamais pécher? Eh bien, il a adopté cet état d'esprit de haine du péché. Hébreux 1, verset 4. Il a été rendu tellement supérieur aux anges qu'il a reçu par héritage un nom plus excellent qu'eux. Quel est en effet celui des anges à qui il a dit un jour, « Tu es mon fils ». Verset 5. Aujourd'hui je t'ai engendré, et de nouveau je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et encore, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit, et que tous les anges de Dieu l'adorent. Et il dit des anges, il fait de ses anges des esprits, et de ses ministres des flammes de feu. Au Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, est pour les siècles des siècles. C'est le sceptre de la justice et le sceptre de ton règne. Vous avez aimé la justice et haï l'iniquité. Deux conditions. C'est pourquoi Dieu, votre Dieu, vous a oint d'une huile d'allégresse au-dessus de vos semblables. Parce que Christ aimait la justice et détestait le péché, Dieu lui a donné ce dont il avait besoin pour vaincre le péché dans le sens le plus ultime du terme. C'est pourquoi il était si puissant. Il a détesté le mal. Il a haï le péché. Quelle est la preuve de notre amour de Dieu? Vous savez, vous pourriez penser que l'amour de Dieu se manifeste par le fait que nous gardons ses commandements. C'est vrai. Mais quelle est la preuve de l'amour de Dieu? Psaume 97. Considérons les choses du point de vue inverse. Nous gardons ses commandements et ils ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas pénibles. Considérons les choses du point de vue opposé. Comment prouvons-nous l'amour de Dieu? Psaume 97, 9. Car toi, Seigneur, tu es élevé au-dessus de toute la terre. Tu es élevé au-dessus de tous les dieux. Toi qui aimes le Seigneur, haïs le mal. Vous qui aimez le Seigneur, haïssez le mal. Détestez le péché. Il préserve l'âme des saints. Il les délivre de la main des méchants. La lumière se montre pour la justice et la joie pour les cœurs droits. Vous qui aimez le Seigneur, haïssez le mal. Nous sommes ici dans les psaumes. Tournez à 101. Je chanterai ta miséricorde et ta justice. Je chanterai pour toi, Seigneur. Premier verset du psaume de David. Je me conduirai avec sagesse et perfection. Quand viendrez-vous à moi? Je marcherai dans ta maison d'un cœur parfait. Langage similaire à celui de Job. Je ne mettrai aucune chose mauvaise devant mes yeux. Je hais l'œuvre de ceux qui se détournent. Elle ne s'attachera pas à moi. Je hais le péché, dit David. Oui, il était en proie au péché. Oui, il a commis de nombreuses erreurs, mais c'était un homme converti. Il détestait le péché. Il s'efforçait de le vaincre. Le cœur rebelle s'éloignera de moi, je ne connaîtrai pas le méchant. Je ne connais pas de méchant. Comment prouvons-nous notre compréhension? Nous prouvons notre amour en haïssant le mal. Comment prouvons-nous notre compréhension? Toujours dans les psaumes. Passons à un 19e, s'il vous plaît. Mon préféré. Peut-être mon hymne préféré. Verset 97. Psaume 119, 97. Comme j'aime ta loi. Elle est ma méditation tout le jour. Par tes commandements, tu m'as rendu plus sage que mes ennemis, car ils sont toujours avec moi. J'ai plus d'intelligence que tous mes maîtres, car tes témoignages sont ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les anciens, car j'observe vos préceptes. J'ai détourné mes pieds de toute mauvaise voie, afin de garder ta parole. Il a évité le mal. Je ne me suis pas écarté de tes jugements, car tu m'as enseigné. Qu'elles sont douces à mon goût, ces paroles. Oui, plus douces que le miel pour ma bouche. Par tes préceptes, j'obtiens l'intelligence. C'est pourquoi. Parce qu'il comprend les préceptes de Dieu, c'est pourquoi je hais toute voie de mensonge. Il s'est entraîné à haïr le péché et a ainsi pu s'en éloigner. Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est ainsi qu'il était guidé. Et une lumière sur mon sentier. Nous devons également haïr l'origine du mal, car le péché commence dans l'esprit. Psaume 119, nous sommes toujours là. Verset 127, verset 127, le péché commence dans l'esprit. Excusez-moi, verset 113, je hais les pensées vaines, mais j'aime ta loi. Parfois, nous avons des pensées que nous ne voulons pas. Nous devons les haïr, les chasser immédiatement. Ne les laissons pas s'envenimer. Ne les laissons pas s'attarder, et nous serons sur la bonne voie pour vaincre ce singulier levier que le diable a sur nous. Dès qu'il nous vient à l'esprit quelque chose que nous ne voulons pas, chassons-le, exerçons l'esprit. Entraînons-nous à discerner les mauvaises attitudes lorsqu'elles commencent et tuons-les plutôt dans l'œuf. C'est un processus difficile. Dans Romains 7, Paul parle de cette guerre à l'œuvre en lui. Vous voudrez peut-être le lire. Il y a une guerre dans mes membres, dit-il, qui combat la loi de mon intelligence et me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Ce n'est pas facile. Ce combat est très difficile, mais il y a un moyen d'avancer. Cela implique le pardon. Cela implique le jeûne. Il faut exercer l'Esprit de Dieu. Lorsque nous dérapons, le 1er Jean, verset 9, entre en jeu. Ce jour est consacré au péché, mais nous sommes assurés que si nous lui confessons nos péchés, nous ne sommes pas catholiques si nous confessons nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, pour appliquer le sacrifice du premier bouc et pour nous purifier de toute iniquité. Et si nous le confessons en disant « J'ai péché, j'ai fait une erreur, Père, ce n'est pas pour blâmer le diable. J'ai commis une erreur, mon Père, ce n'est pas que nous blâmons le diable pour cela. C'est lui qui en est à l'origine. Il en est la cause. Mais c'est nous qui avons glissé et péché. C'est nous qui sommes la proie. Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Encore un verset dans les psaumes pour conclure. Encore un verset dans les psaumes 139. Nous savons que nous détestons le péché par rapport aux pécheurs. C'est un langage intéressant, mais qui enfonce le clou. Psaume 139 et verset 19, tu tueras le méchant. En fait, verset 17. Combien me sont précieuses, ô Dieu, tes pensées, et combien est grande la somme de tes pensées? Si je les compte, elles sont plus nombreuses que le sable. Quand je me réveille, je suis encore avec vous. Dieu, tu feras périr les méchants. Éloignez-vous donc de moi, hommes sanguinaires. David ne voulait pas prendre part à quoi que ce soit de mauvais, car il parle de toi avec méchanceté, et tes ennemis invoquent ton nom en vain. Seigneur, n'ai-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, et ne suis-je pas attristé par ceux qui s'élèvent contre toi? Je les ai d'une haine parfaite. Je les considère comme mes ennemis, parce qu'ils ont été mêlés à ces choses mauvaises. Nous nous concentrons sur le péché, et non sur l'individu, bien sûr. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Et voici la clé, vois s'il y a en moi une voie mauvaise, une voie pécheresse, et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Nous avons tout prévu, mes frères. Si nous ne sommes pas à la hauteur, Dieu a tout prévu. Alors que nous essayons de poursuivre la justice, il promet de nous guider à chaque étape du chemin, et nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Nous pouvons vaincre cet être qui a le pouvoir de la mort. Nous pouvons vaincre le péché qu'il nous impose. Très bientôt, nous serons Dieu. Nous ne serons plus soumis au péché. Nous ne pourrons pas pécher. Nous ne serons pas tentés de pécher. Nous aurions pu ajouter cela à la liste des choses que Satan essaie de nous empêcher de recevoir en nous entraînant dans les temps de feu. Imaginez que vous ne soyez plus jamais tentés par le péché. Imaginez le sentiment de liberté que procure le fait de savoir que tout ce que l'on fait est juste, sans avoir à se poser des questions, à surmonter ceci ou cela, ou à s'inquiéter de ceci, juste une parfaite tranquillité d'esprit et une grande liberté. Nous ne pourrons plus pécher, mais d'ici là, frères, prenons ces leçons sur le péché du jour de l'expiation et appliquons-les dans nos vies. Le péché est la seule chose qui nous empêche, vous et moi, d'être unis à Dieu. Et ce n'est pas seulement nous, c'est la seule chose qui empêche finalement tout le monde, tous ceux que vous connaissez, tous ceux que je connais, tous ceux de l'histoire, tous ceux de l'avenir, la seule chose qui empêche une relation éternelle avec Dieu pour toute l'humanité. Il est à espérer qu'à travers le prisme du jour de l'expiation, nous comprenions pourquoi le péché est si mortel. Christ a été tué pour cela. Nous voyons qu'en fin de compte, c'est Satan qui est à blâmer, et que nous avons notre rôle à jouer. Et c'est la seule chose que Satan peut utiliser pour nous faire dérailler de notre quête de la vie éternelle. Détestons le péché plus que jamais et attendons avec impatience le moment où nous en serons définitivement libérés et où nous ne ferons plus qu'un avec Dieu pour toujours.